Voici ce magnifique texte du prologue de Jean. Au commencement était la parole, et cette parole était celle de Dieu, cette parole était même Dieu. En elle était la lumière qui est donnée à tout homme venant au monde. Ça commence justement par ce mot « au commencement ». Et ces deux mots « au commencement » me font penser, et je crois que c'est vrai, que ce texte est vraiment la base de tout. Ce qui est le fondement de toute vie possible, ce qui est le commencement de toute vie nouvelle possible, c'est le commencement par lequel il faut passer si on veut comprendre la vie chrétienne, et même si on veut vivre en chrétien, il y a un commencement, c'est celui-là. C'est la base, le fondement, le point de départ de tout le meilleur qui peut nous arriver et de tout ce que le Christ peut nous donner. Il a été noté, bien sûr, que ce « au commencement » sont les mêmes mots qui débutent le livre de la Genèse. « Au commencement, Dieu créa le monde », etc. Mais dans la Genèse, on avait le commencement du monde matériel. Ici, on a une nouvelle création, justement, un nouveau commencement, qui est le début du monde de l'Esprit. Parce que, et le prologue de Jean le dit bien, il ne suffit pas d'être né de la chair et du sang, il faut encore que nous puissions acquérir une nouvelle dimension qui est celle de l'esprit, sinon nous ne vivons que comme des bêtes pour mourir comme des bêtes. Et donc il y a le commencement de notre vie matérielle qui est notre naissance, et puis il y a un autre commencement, une autre source, une autre racine de ce qui fait que nous sommes plus pleinement humains que n'importe quel animal, et qui est justement dit là dans le prologue de Jean. Alors nous avons, en effet, comme tout animal, une vie matérielle. Nous mangeons, nous nous distrayons, nous travaillons, nous partons en vacances, nous faisons différentes choses, nous avons peut-être un emploi, peut-être qu'on est au chômage et qu'on en cherche, ou on a des loisirs, ou on profite de sa santé physique, si on est jeune et en bonne santé, ou si on est en mauvaise santé, on passe son temps dans les hôpitaux, les examens, les traitements. On passe son temps à soigner son corps d'une façon ou l'autre, que ce soit agréable ou désagréable, mais finalement tout cela mène à quoi? Eh bien ça mène, je crois pour nous, à la nécessité de penser que nous devons trouver une autre dimension. Justement, naître de nouveau, naître d'en haut, trouver cette autre dimension de l'esprit qui est au-delà du corps, au-delà de la matière, au-delà du visible. Et c'est ce que dit aussi dans l'évangile de Jean, un petit peu plus loin, vous savez, cet entretien avec Nicodème, quand Jésus dit « il ne suffit pas d'être né de la chair et du sang ou du ventre de sa mère, il faut naître d'en haut et d'esprit ». Alors voilà ce prologue de Jean, donc ce haut commencement, qui nous dit la base de cette nouvelle naissance et de cette création nouvelle. Et je crois que justement ces deux petits mots, moi, me plaisent beaucoup, parce que commencer un livre, une bonne nouvelle, par « au commencement », c'est dire que ma vie peut justement être non pas la gestion d'une sorte de fin de quelque chose, mais un commencement. Et que non, ma foi peut précisément apporter quelque chose de neuf, peut donner la vie, et que justement cet évangile peut nous permettre de recréer notre existence neuve à chaque fois, de retricoter notre vie même quand elle semble partir en chaos. Il y a dans cet évangile de Jean une puissance de création, de recréation et de commencement de quelque chose. Il y a dans l'Ancien Testament une vision très spectaculaire et saisissante qui est celle des ossements desséchés, vous savez, dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 37, je crois, ou 36, 37. Ézéchiel, ces ossements desséchés, la vision du prophète qui voit une vallée brûlée avec des cadavres partout, des ossements desséchés partout, et il voit cette puissance de Dieu qui justement arrive à remettre des ligaments, des tendons sur les os et finalement rendre vie à ces ossements desséchés. Eh bien, pour moi, je trouve cela saisissant, justement, parce que on peut avoir parfois le sentiment que sa vie n'est qu'un désert, un champ de ruines, des ossements éparpillés, brûlant au soleil, eh bien, il y a en Dieu cette puissance, justement, de recréation, cette puissance d'un commencement, d'une résurrection, d'une vie nouvelle, au-delà de la vie physique, au-delà de tout ce que le monde matériel nous impose. Alors voilà, c'est cela, la base, le moteur de cette vie nouvelle, c'est le prologue de Jean, au commencement. Bon. Alors c'est d'ailleurs pour ça que les chrétiens, vous savez, fêtent le Seigneur le dimanche. Le dimanche, normalement, c'est le premier jour de la semaine. Je ne sais pas pourquoi, en France, le dimanche est redevenu le septième jour. Sur nos calendriers, le dimanche est le dernier jour de la semaine, mais normalement, le dimanche, c'est le premier jour de la semaine, et dans les calendriers anglo-saxons, d'ailleurs, ou américains, la semaine commence par le dimanche. Ils ont raison, parce que le septième jour de la semaine, c'est le sabbat, samedi. Et le dimanche, on commence une nouvelle semaine. Et je trouve ça formidable de dire que notre semaine commence par le dimanche, c'est-à-dire par le jour du Seigneur. Alors que mettre dimanche comme le septième jour, c'est rester dans l'idée que finalement la foi, la vie nouvelle, le Seigneur serait plutôt l'aboutissement de 6 jours de travail. Donc je me donne du mal, j'œuvre, je peine, je sue. Et puis enfin, ouf, oh, septième jour, ça y est, je bénéficie enfin de la grâce et de l'amour de Dieu et du jour du Seigneur. Mais c'est tout le contraire. Le jour du Seigneur et la grâce de Dieu n'est pas la conséquence de 7 jours, de 6 jours de travail, c'est le point de départ d'une nouvelle semaine. Et de pouvoir dire ainsi que, justement, ce jour du Seigneur, c'est de là que tout commence. C'est là le commencement de tout. Et le jour du Seigneur, la proclamation de la grâce que nous avons partagée tout à l'heure, quand on nous dit « Dieu vous aime, Dieu vous pardonne, Dieu vous conserve dans sa grâce », ce n'est pas pour essayer d'effacer 6 jours de péché, c'est plutôt pour se dire « Je pars pour une vie nouvelle ». Et justement, ce n'est plus le passé qui me tire en arrière pour me faire chuter, mais je suis tendu en avant vers une nouvelle semaine qui s'ouvre à moi et qui sera fécondé par cette grâce et cet amour qui m'est donné. Donc c'est ça la base, la grâce, se savoir aimer et pardonner, avoir une parole qui nous illumine pour pouvoir avancer. Parce qu'en effet, justement, Dieu ne nous lance pas dans ce monde ou dans une nouvelle semaine dans le noir, sans sa présence, sans son accompagnement, mais nous sommes accompagnés par ces deux choses que donne le prologue de Jean, sa parole et sa lumière. Alors sa parole et sa lumière qui nous permettent d'avoir justement une vie nouvelle, un nouveau commencement, la création nouvelle, le commencement de quelque chose de neuf, et qui nous permet de penser que chaque semaine, il peut se passer quelque chose de nouveau. Ça a souvent été dit et réutilisé dans les églises et les différentes prédications. Ça m'agace un peu, mais finalement c'est très juste quand on dit, vous savez, aujourd'hui est le premier jour du reste de votre vie. C'est un peu une formule, mais finalement c'est tout à fait dans le sens de cet évangile de Jean, où chaque fois que je le lis, je dis « au commencement », et je suis donc dans le commencement de quelque chose. Alors ce commencement, Jean nous dit qu'il repose sur 2 éléments essentiels qui sont la parole et la lumière. La parole, c'est la parole créatrice de Dieu, force agissante de Dieu pour nous. Et puis la lumière, eh bien, elle ne fait rien. La lumière n'est pas agissante, mais elle ouvre et elle illumine. Et c'est assez étonnant d'ailleurs, justement, cette présence de ces 2 éléments, je dirais, complémentaires, pour ne pas dire contradictoires, c'est-à-dire entre la parole qui crée, la parole qui invente, la parole qui instruit, la parole qui conseille, la parole qui oriente, la parole qui révèle, la parole qui met en garde, qui propose, qui appelle. Et Dieu sait s'il y a justement dans l'Évangile tout cela, une parole qui nous accompagne, qui nous conduit, qui nous parle justement. Et puis la lumière, qui ne dit rien, mais qui ouvre, qui donne la liberté. La lumière qui laisse la possibilité de choisir et qui laisse comprendre. Et peut-être que justement la vie du chrétien, elle est en tension entre ces deux, entre une parole et une lumière, entre un guide et une liberté, entre des conseils donnés par un père qui nous dit « attention, tu aimeras ton prochain, tu pardonneras, etc. » et puis une espèce de confiance bienveillante, comme Jésus qui ouvre les yeux de l'aveugle sans question, sans condition, sans rien, il lui donne la liberté, il ouvre vers tous les possibles. Alors la parole, c'est aussi cette image de Dieu, on dit la parole était Dieu, confession de foi extraordinaire de dire que Dieu est parole, c'est assez étonnant, et je crois moi dans ce Dieu parole, parce que la parole c'est à la fois, je l'ai dit, une parole créatrice, mais une parole c'est pas un acte magique, c'est-à-dire la parole ne peut rien faire de force, la parole ne peut qu'essayer de convaincre, d'appeler, de conseiller. C'est une parole qui conseille, qui instruit, mais qui ne peut rien imposer. Et je crois, moi, dans un Dieu qui est parole, justement. Un Dieu qui informe, un Dieu qui conseille, qui appelle, mais pas un Dieu qui agit de force dans le monde. Et puis la lumière, c'est une lumière qui éclaire, je vous l'ai dit, qui donne la liberté. Lumière qui permet de comprendre, qui permet de choisir. Ou alors lumière qui chasse les ténèbres. Autre don de Dieu, que ce soit les ténèbres de l'ignorance, je crois que notre foi chrétienne, si elle est bien faite évidemment, lutte contre l'obscurantisme, ou alors cette lumière qui lutte contre les ténèbres qui peuvent être celles de la tristesse ou du deuil, parce que Dieu nous remplit de lumière, il peut mettre en nous de la joie, de la confiance, de la consolation dans nos cœurs. Et même, dirais-je, que cette parole, justement, est aussi lumière. Donc la parole de Dieu, si elle est quelque chose, elle est une parole qui console, une parole qui fait du bien, une parole qui donne la vie. Alors ce qui est intéressant, c'est que le prologue de Jean met en lien ces deux. C'est-à-dire qu'il dit que la lumière vient de la parole et que cette parole est lumière. Alors là, c'est plus compliqué. Que cette lumière vienne de la parole... Ça veut nous dire que justement cette parole de Dieu n'est pas une parole qui condamne ou qui fait peur, mais ça doit être, et c'est, je crois, une parole qui libère. Et je pense justement, moi-même, en tant que serviteur de la parole et que ministre donc de la parole, comme on dit, j'espère être le divulgateur, non pas d'une parole qui enferme, qui enferme dans des doctrines, dans des morales ou autre chose, mais que ce soit une parole qui libère justement, qui libère du péché, qui libère de la culpabilité, qui libère de la peur, qui libère du passé, de la mort, de tout ce que nous subissons. Et cette lumière liée à la parole, ça nous dit aussi que cette lumière, elle n'est pas juste donnée comme ça, comme une chance que nous avons reçue, mais cette lumière est aussi en elle-même parole, si vous voyez ce que je veux dire, c'est que la parole est lumière parce que c'est une parole qui libère. Mais la lumière qui nous est donnée est aussi en elle-même tout un message. C'est-à-dire que je reçois la lumière, donc la liberté de Dieu, et cette liberté que je reçois est aussi un appel et une proposition de vie, c'est-à-dire non seulement profiter de cette lumière de Dieu, mais aussi marcher vers cette lumière. Que cette lumière, elle est donnée, et je suis aussi invité à avancer vers la lumière. Et donc la grâce qui nous est offerte n'est pas juste là pour nous faire plaisir et nous rassurer, mais elle nous est aussi donnée comme un but vers lequel nous devons avancer, comme un projet de vie. Mon projet, c'est la grâce. Et le but vers lequel j'essaye d'avancer, c'est effectivement la grâce. Parole qui est lumière, donc vous voyez le lien entre les deux, une parole qui certes indique, appelle, corrige, mais aussi une parole qui libère, et elle libère parce qu'elle donne la connaissance. Et je crois que quand on comprend, quand on connaît, on est plus libre que par rapport à ce qu'on ne comprend pas et qu'on ne voit pas. Mais je peux approfondir encore un peu cette histoire de parole et de lumière qui définitivement me passionne. Parce que là, je suis resté dans cette idée que la parole et la lumière venaient de Dieu. Mais en fait, la parole, c'est aussi une communication. Enfin, la parole n'est jamais à sens unique, normalement. Donc Dieu parle, mais je parle aussi. Au commencement est la parole de Dieu, mais aussi, dirais-je, au commencement de ma nouvelle vie, je peux parler, c'est ça, et je commence à vivre le jour où je parle. Et effectivement, cette nouvelle vie, c'est ma parole, c'est-à-dire c'est l'échange. Et c'est pour ça que, effectivement, le baptême, qui évidemment est sous-jacent dans toute cette histoire, non seulement quand c'est pour un bébé, ça marque le commencement de, je dirais, le fait qu'un enfant doive être né non seulement de chair et de sang, mais aussi d'un être spirituel. Mais quand il s'agit d'un adulte qui demande le baptême, c'est justement de dire à un moment donné, je veux, moi, mettre une parole personnelle sur cette parole qui m'est donnée. Il y a un Dieu qui dit, je t'aime, et je veux dire, oui, j'en veux bien, moi, de cet amour, et j'accepte d'être aimé, et à mon tour, je peux être une parole qui dit, Jésus-Christ est le Seigneur, ou je veux aussi aimer Dieu de tout mon cœur. Et donc, j'ai le droit d'être une parole. Et je peux aussi être un être de parole. Et moi, je revis quand je parle aux autres, quand je parle même pour moi, ou si je parle pour Dieu, si je parle à mon pasteur, si je parle à mon psy, je parle à qui vous voulez, mais quand je parle, je vis. Et ça, c'est quelque chose que nous pouvons faire à tout moment. Combien de personnes me disent « je souffre de ne plus pouvoir rien faire pour mes enfants, mes petits-enfants, ma paroisse ». Je dis ben, « tant que vous pouvez leur dire quelque chose, vous pouvez faire énormément ». Voilà. Et même, je dirais, vis-à-vis des autres, notre parole a une puissance incroyable, une puissance, je dirais, divine. Par la parole, je peux faire d'immenses choses par la parole. La parole, c'est une puissance formidable donnée à l'homme. Ce n'est pas qu'une puissance. Notre puissance n'est pas simplement matérielle ou financière ou autre, mais le principal, je crois, de notre puissance, de notre pouvoir dans le monde, c'est notre parole. D'ailleurs, moi qui pratique les sports équestres, on m'a appris qu'en équitation, il y a quatre aides, quatre façons de conduire un cheval. La jambe, la main, l'assiette, la façon avec laquelle on est assis, et la quatrième, c'est la parole. C'est étonnant, hein ? Et donc la parole, effectivement, c'est une chose d'une force absolument inouïe. Parce que ce que je dis peut avoir une importance infinie. Un simple mot peut changer une vie. Et ça, j'en ai des témoignages nombreux, dans un sens comme dans l'autre. Nombre de personnes qui m'ont dit « Monsieur le pasteur, une fois vous m'avez dit ça, et ça a changé ma vie. » Formidable. Mais j'ai aussi eu le témoignage du contraire. J'ai le souvenir, une fois ou l'autre, de m'être énervé contre quelqu'un dont j'avais la charge et d'avoir dit des choses blessantes, et que ces paroles aient définitivement cassé quelque chose dans notre relation pour toujours. Et j'en ai encore la culpabilité. Et j'ai expérimenté ce pouvoir étonnant de la parole qui peut donner la vie ou qui peut casser et tuer. Et donc, oui, la parole, voyez-vous, cette puissance incroyable de la parole, nous sommes des êtres de la parole, et c'est dans la parole que se joue notre divinité et notre vie. Et donc, vous avez tous ce pouvoir unique de la parole. Je dirais, attention à ce que vous dites, non pas pour vous terroriser en disant, oh là là, je risque de dire des bêtises, mais que ce soit notre préoccupation de se dire, c'est avant tout par la parole que je donne la vie, que je peux faire vivre, et que ce qui compte, c'est ce que je suis capable de dire à mon conjoint, mon mari, ma femme, mes enfants, mon ami, mes petits-enfants, ou mes collaborateurs, mes ouvriers, je ne sais qui. Et c'est par la parole, vous disais-je, qu'on peut faire les plus grandes choses. C'est le pouvoir divin, et Dieu nous donne d'être co-créateurs avec lui. Alors vous me direz, la lumière, elle, au contraire, elle est donnée, puis voilà, c'est pas la même chose, mais parce que nous ne sommes pas des lumières. Encore que, peut-être qu'on pourrait aussi le développer de la même manière. Parce que dans Matthieu, Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Et donc cette lumière n'est pas simplement la lumière donnée par Dieu, nous sommes aussi appelés à être lumière. Quelle vocation incroyable de nous dire le plus beau rôle que je peux avoir dans ce monde par rapport aux autres, c'est de donner de la lumière, c'est-à-dire de la liberté, de la confiance. Et nous sommes appelés à créer pour, je dirais, pour notre petit monde aussi cette lumière. Voilà notre programme, être lumière dans le monde. Alors, vous me direz, lumière dans le monde, ça me semble beaucoup pour moi, ça me semble un peu lointain. C'est pour ça que je vous ai dit lumière dans votre petit monde. Vous pouvez être lumière du monde. Et donc notre parole, qui doit être une parole de lumière, c'est-à-dire une parole qui crée, une parole qui libère, une parole qui éclaire, qui explique, qui fait comprendre, qui console, qui donne de la joie, et une parole qui permet d'entrer en relation, donner les éléments qui permettent de s'y retrouver, qui permettent de gagner en confiance et en autonomie, c'est tout cela. Et puis enfin, évidemment, quand je parle de lumière, je comprends qu'il ne s'agit pas de lumière matérielle. Ce n'est pas la lumière de l'EDF, vous n'êtes pas la lumière du monde pour éclairer le monde avec des lampes. C'est une lumière spirituelle, une lumière au-delà de la lumière, ça vous avez compris bien sûr. C'est-à-dire que justement cette lumière, c'est aussi apprendre à voir au-delà du visible, justement. Arriver à voir l'invisible, voir la lumière intérieure de toute chose. Et si cette lumière n'est pas une véritable lumière matérielle, est-ce que par hasard je ne devrais pas faire la même transposition sur la parole ? Et dire que la parole dont il est question n'est pas une parole écrite, dite, etc., mais une parole au-delà des mots, une parole au-delà de la parole. Et je crois que c'est vrai aussi, on doit pouvoir le dire. Parce que cette parole qui est lumière et cette parole qui est source de vie, n'est justement pas une parole humaine, ce qui doit nous mettre en garde contre toute forme de fondamentalisme. La parole qui est la parole de Dieu, ce n'est pas cette Bible ouverte là, ces mots humains écrits sur des pages, mais c'est une parole au-delà de tout mot, une parole qui est au-delà des mots, une parole qu'on arrive à saisir à travers les lignes de ces évangiles que nous lisons, mais la parole de Dieu n'est pas explicitement la parole que nous lisons dans la Bible. La Bible est une parole humaine qui rend témoignage de cette parole de Dieu, qui est une parole indicible, au-delà de tout ce que nous pouvons en comprendre, au-delà de tout ce que nous pouvons en dire. Et donc cette parole, elle dépasse, je dirais même, les mots, et elle dépasse aussi la raison. Donc, moi qui suis souvent, qui ai tendance à sombrer dans un effroyable rationalisme, je dois dire que je ne crois pas que la parole de Dieu soit contraire à la raison, mais elle peut la dépasser de toute manière, que tout n'est pas compréhensible, et il y a des choses qui dépassent notre raison. Et peut-être que justement, Dieu est ce qui est au-delà de la raison, au-delà de ce que je peux comprendre. Il y a un au-delà même des mots et un au-delà même des paroles. Ça, les Juifs l'ont bien compris quand ils disent que le nom même de Dieu, on ne peut même pas le lire ni le prononcer. Yahvé, c'est le mot imprononçable. On ne sait pas comment on le prononce. C'est donc un mot, le seul mot important qui est Dieu, est une parole impossible. Ça, c'est extraordinaire. Et de même, quand Paul dit « Nous ne savons pas que demander dans nos prières, mais l'Esprit intercède pour notre esprit par des soupirs inexprimables. » Et j'aime ces soupirs inexprimables qui peut-être peuvent faire partie justement de la foi, ce sentiment qu'il y a un indicible au-delà de tout qui me dépasse et qui est justement ce Dieu dans lequel je mets ma confiance. Parce que la sagesse de Dieu est folie pour les hommes et il y a en Dieu quelque chose qui peut passer au-delà de mon intelligence, par ma sensibilité, par la mystique, par la prière, et que tout cela ne sont pas que des mots. Alors voilà, au commencement, vous disais-je, était la parole, et cette parole était la lumière véritable qui éclaire tout homme. Eh bien, frères et sœurs, il y a un commencement possible à tout instant, un début de toute chose. Il y a une vie nouvelle qui nous est offerte chaque jour et à chaque instant. Il y a une parole qui nous est donnée, qui est une parole de vie, une parole de lumière, de joie, d'espérance, une parole de liberté et de vérité qui nous est offerte, une parole de grâce, comme le dit le prologue de Jean après, et peut-être que la grâce résume ces deux notions de parole et de lumière. Cette grâce qui vous est offerte pour vous, pour votre vie, pour votre joie et pour la joie du monde. Amen.